les soldes débarquent chez Auchan. Profitez d'une offre allant jusqu'à 40% de remise immédiate sur une sélection de smartphones Samsung.
Avec une offre pareille, c'est l'affaire de l'année. Un tout nouveau téléphone à prix cassé, sans casser ma tirelire.
Alors, ne manquez pas ces offres très très spéciales. Auchan, avec plaisir. Jusqu'à 40% de remise immédiate sur une sélection de smartphones Samsung. Offre valable jusqu'au 23 juillet, hors zone bénéficiant d'une dérogation fixée par arrêté. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
8h01 sur RMC. Excellente journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trois blocs et la perspective d'une France ingouvernable. Voilà le scénario qui se dessine au lendemain des législatives. Sondage Elab ce matin qui donne le RN en tête avec 31% des intentions de vote devant l'union de la gauche et le camp présidentiel. En pleine union, tiens, de la gauche. Vous entendrez, c'était un instant sur RMC, le socialiste Olivier Faure qui ne voit pas d'un bon œil la sortie de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui se verrait bien à Matignon.
Et la justice, Emmanuel Macron promet des peines plus lisibles, plus rapides et plus sûres. Ça veut dire quoi? Et est-ce possible? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt? Toutes ces questions, je les pose au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera mon invité dans une demi-heure.
Et à la veille du début de l'Euro de foot RMC en Allemagne, on vous donne des infos ce matin sur le 11 des Bleus que veut mettre en place Didier Deschamps.
Emmanuel Macron voulait de la clarté, pas sûr que la France soit plus avancée le 8 juillet au lendemain des législatives.
Oui, parce qu'on a ce matin le premier sondage Elab pour BFM TV et la tribune dimanche réalisée depuis l'union de la gauche. Il donne donc dans les intentions de vote 31% pour le RN, 28% pour la gauche unie et 18% pour le camp présidentiel. Donc dans ce sondage, Maubécard Ragné.
Un sondage qui donne trois blocs avec le Rassemblement National en tête, mais sans majorité absolue. Julia s'inquiète d'une future assemblée dans l'incapacité à gouverner.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir se passer avec une telle cohabitation, on va dire. C'est vrai que c'est une crainte qu'on soit dans un gros marasme. Qui va payer ses pots cassés? Bah, ce sera nous, je pense, les citoyens.
Derrière le RN, le bloc de gauche avec entre 150 et 190 députés, celui de Renaissance avec maximum 130 sièges, il faudra des alliances pour légiférer, une nouvelle répartition que cette retraitée ne voit pas d'un si mauvais œil.
Et ça va se jouer dans des relations humaines beaucoup plus que trucs d'appareil. Ils parleront ensemble et ils trouveront des accords, selon les lois, selon les projets. Mais il faut accepter que tout le monde ne soit pas ou blanc ou noir, ou bleu ou rouge.
La Constitution est pensée pour faire face à ces situations, explique Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit public.
Depuis deux ans maintenant, le gouvernement n'a pas été censuré, il a pu gouverner. Le 49-3 qui permet de sécuriser l'adoption, notamment des lois les plus importantes.
Une chose est sûre, l'Assemblée ne pourra pas être dissoute dans l'année suivant son élection.
Voilà, donc 31, 28, 18 dans ce sondage. C'est un match en fait entre le RN et le Front Populaire qui s'installe, hein, Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC. Ça, Emmanuel Macron ne l'avait pas vu venir.
Oui, car il y a les mots et la version officielle où l'on a vu hier un président appeler au sursaut républicain face à deux blocs extrêmes. Et puis, il y a la stratégie, la première, celle qui avait été théorisée dimanche lorsque le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée. Si tout le monde savait dans son entourage que le pari était osé, les proches du chef de l'État pensaient que jamais la gauche n'aurait pu se rassembler après s'être fracassée sur la question du Hamas et la montée de l'antisémitisme. Problème, même Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire profil bas et la gauche est à deux doigts d'officialiser la naissance du nouveau Front Populaire. Mauvaise analyse aussi à droite. L'Élysée avait prédit qu'une partie des Républicains, Macron compatibles, pouvaient les rejoindre. Mais la trahison d'Éric Ciotti et son choix de rallier le Rassemblement National a provoqué l'effet inverse et ressoudé une partie des Républicains. Hier, à la vue de ces mauvais sondages de la majorité, un des parrains de la dissolution m'a avoué qu'aucun camp n'aurait sans doute la majorité quand un ministre évoquait déjà une profonde crise de régime à venir.
Et voilà dans quel contexte le Premier ministre Gabriel Attal fera son premier déplacement de campagne aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. Pendant ce temps, le bras de fer, le psychodrame même continue ce matin à droite. La nouvelle patronne des Républicains, Annie Genevard, assure qu'Éric Ciotti n'est plus le président du parti, contrairement à ce qu'il affirme, car il a, dit-elle, contrevenu au statut des LR en faisant alliance avec le RN. Et alors, lui, ce matin, Éric Ciotti a bien l'intention de retourner dans son bureau au siège du parti Les Républicains à Paris. Écoutez le feu.
Je serai dans mon bureau dans quelques instants. C'est pas d'ailleurs le sujet, vous savez tout ça. Ce sont des arguties, des petits combats de gens médiocres, d'arrière-garde, qui n'ont rien compris. Il y a des obstacles à la présidence légitime que je dispose. Il y aura des actions judiciaires, y compris des actions pénales, pour ceux qui utiliseraient des moyens qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser.
Voilà, donc ce matin, Éric Ciotti sur France 2 est par effet ricochet après Les Républicains. C'est Reconquête qui se divise. Marion Maréchal exclue hier soir du parti par Éric Zemmour pour avoir décidé de soutenir les candidats investis par le Rassemblement National. Et alors, le nouveau Front Populaire de gauche avance. Un accord sur la répartition des candidats a été trouvé, une centaine de plus qu'il y a deux ans pour le PS. Jusque-là, les discussions se faisaient sans l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a donc ressurgi hier soir. Il ne dit pas non à Matignon, et ça ne réjouit pas vraiment ce matin sur RMC le socialiste Olivier Faure.
Lorsque la nouvelle coalition sera majoritaire, elle devra se réunir et elle devra choisir en son sein celui ou celle qui est le plus en mesure de réparer les liens distendus.
Cela suppose qu'on
ait un profil, soit un profil non pas le plus clivant, mais qui permettent au contraire de fédérer ce pays.
Alors, Olivier Faure dit que ce matin, il y a toujours l'intention de se réunir, mais que le compte n'y est pas totalement. Jean-Luc Mélenchon assure qu'en cas de victoire de la gauche, les décrets de la retraite à 64 ans seront annulés. Au lendemain des législatives, le RN, vous le savez, n'en fait plus sa priorité. On en a déjà parlé sur RMC. Et parmi les idées tiens évoquées depuis lundi au Rassemblement National, il y a celle de la préférence nationale pour l'attribution des logements sociaux, en privilégiant les foyers dont au moins un des parents est français. Idée qui scandalise à Saint-Denis, au nord de Paris, où s'est rendu Nicolas Trénaud pour RMC.
Sans le HLM qu'il occupe avec ses 5 enfants, cet homme de 46 ans, Lassana, n'aurait pas les moyens de se loger. Retirer ce droit aux étrangers comme lui est xénophobe, affirme cet homme de nationalité ivoirienne.
Sans HLM, bon, je ne sais pas comment je vais faire.
Parmi la totalité des logements HLM, 10 à 20% sont attribués à des étrangers en situation régulière, comme cette femme congolaise de 61 ans, Fatou Klo, qui rappelle que c'est un droit mérité.
Les HLM, c'est fait pour nous les pauvres. Vraiment, je suis choquée. Pourquoi ils vont les laisser dans la rue alors que ce sont eux qui font tout? Les étrangers, ils n'ont pas honte de travailler, même s'il faut faire la poubelle, et ils les font.
Alors face à cette mesure jugée contraire au principe d'égalité, la Fédération nationale des agents immobiliers prend position. Le président Loïc Quentin fait savoir qu'ils n'accepteront jamais l'instauration d'une quelconque préférence nationale.
La discrimination, pour quelques motifs, ne fait pas partie de nos critères et, je dirais, de notre éthique concernant l'exercice de notre profession. On ne l'appliquera pas.
La solution partagée par les organisations du secteur est de construire plus, ce que toutes les communes ne font pas au mépris de la loi.
Et comme promis, des nouvelles de l'équipe de France de football ce matin, à la veille du début de l'Euro. Fabrice Hawkins en Allemagne pour RMC, vous êtes au QG des Bleus. Ce sera tout pour Mbappé.
Il n'y a pas de doute, Didier Deschamps veut mettre Kylian Mbappé au cœur de son plan de jeu offensif. Dès les premiers jours du rassemblement, le sélectionneur a expliqué à ses cadres qu'il souhaitait positionner le capitaine des Bleus à la pointe de l'attaque. Olivier Giroud devrait donc débuter la compétition sur le banc. Au milieu, la surprise N'Golo Kanté est devenue une évidence au fil des jours. Il sera titulaire lundi contre l'Autriche. Enfin, en défense, le sélectionneur doit trancher. Poursuivre avec la paire Upamecano Konaté qui a brillé pendant le mondial, mais les deux joueurs sont moins en forme, ou intégrer William Saliba. Avant le premier match, les Bleus ont quelques jours pour peaufiner leur tactique, mais aussi soigner les bobos. Aurélien Tchouaméni est encore juste, Adrien Rabiot aussi, même s'il s'est entraîné normalement hier soir.
Voilà, RMC, pour ceux qui ne l'auraient pas retenu, RMC Radio, officiel de cet Euro, vous vivrez tous les matchs de ce championnat d'Europe de foot qui commencera demain en Allemagne.
On ne rate rien sur RMC. C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Une assemblée sans majorité claire. Voilà la photo à ce stade du lendemain des élections législatives. Le Rassemblement national est en tête des intentions de vote. Il est talonné par la gauche, mais aucun parti n'aurait une majorité claire. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Quel scénario? Est-ce que la France serait ingouvernable? Réponse d'un spécialiste de la Constitution. C'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
On va essayer de comprendre ensemble à quoi pourrait ressembler la France d'après. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste. Le sondage Elabe pour BFM TV et La Tribune dimanche qui a été publié hier soir montre que à ce stade, on aurait une assemblée élue au soir du 7 juillet
ingouvernable, c'est-à-dire avec une majorité de députés RN, un peu moins de députés de la coalition de gauche, et puis en troisième position, il y aurait les députés issus du macronisme. Mais aucun groupe n'aurait les moyens de gouverner. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, le 8 juillet au matin ?
Alors, il faut comprendre que notre constitution a été faite, construite, pensée par Michel Debré pour gérer des majorités dites relatives, ce qu'on connaît de 2022 à aujourd'hui, en réalité. Parce que le mode de scrutin majoritaire à deux tours, il date du Second Empire. Il avait jamais donné de majorité absolue sous la Troisième République, notamment. Toutefois, elle peut pas gérer une absence totale de majorité. Autrement dit, le 7
absence relative, ok.
Exactement.
Pas de majorité, c'est pas possible.
C'est ça. Si vous avez un groupe majoritaire, mais qui n'a pas la majorité absolue, et des groupes qui s'abstiennent, dans l'ancienne législature, ensemble voter les textes et LR s'abstenait sur les motions de censure.
C'est terrible, c'est que au moment même où vous parlez, je suis obligée de faire un petit calcul dans ma tête en me disant, attendez, ensemble c'est qui ? C'est Renaissance, c'est
Modem,
Macron,
c'est Renaissance, Horizon. Modem et...
Et en fait, c'est terrible, et ça résume tout, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus le nom des partis. C'est-à-dire qu'ils ont tous tellement changé leur nom. Enfin, pardon, c'était une petite parenthèse, mais je me faisais cette réflexion mécanique dans ma tête en me disant, si moi, dont c'est le job tous les matins de faire de la politique, d'apprendre ce que c'est, d'interviewer des politiques, je ne sais même plus le nom des groupes à l'Assemblée, je me demande si ceux qui nous écoutent ou nous regardent y voient vraiment clair. Pardonnez-moi, Benjamin Morel, allez-y.
Donc, si jamais vous n'avez pas de majorité du tout. Autrement dit, si vous avez des motions de censure qui peuvent passer, admettons, on est le 7 juillet et Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal. Motion de censure, il tombe en une semaine. Il nomme ensuite Jordan Bardella, premier groupe a priori dans le Parlement. Mmh. Il tombe en une semaine. Mathilde Panot, elle tombe également en une semaine. Eh bien, à ce moment-là, on est réellement bloqué. Quand une motion de censure peut passer, on est bloqué. Gouvernement minoritaire, Rocard, 88-93, ça tient parce que les communistes et les centristes s'abstiennent. De 2022 à aujourd'hui, les LR s'abstenaient, ça tenait. Demain,
Benjamin Morel, Emmanuel Macron a affirmé hier qu'il n'était pas question qu'il démissionne, qu'il irait au bout de son mandat. Si on vous écoute, c'est pas si clair, parce que si ce scénario se produit, que vous décrivez, de gouvernements qui tombent les uns après les autres, il n'aura plus qu'une seule carte dans sa manche, démissionner.
Mais ça ne changerait fondamentalement pas la donne, parce que s'il démissionnait, alors il y a une ambiguïté, est-ce qu'un nouveau président de la République pourrait à nouveau dissoudre ou pas ? Mais ce serait un autre président, le problème serait le même. Le problème, c'est qu'on n'ait pas de majorité pour soutenir un gouvernement, quel qu'il soit. Et là, le seul scénario avec lequel on peut faire un parallèle, c'est le scénario des gouvernements techniques en Italie. Les Italiens sont assez spécialistes pour justement ne jamais trouver de majorité, et donc vous nommez un Mario Monti, un vieux sage au-dessus des partis, et vous attendez à ce qu'il fasse l'unanimité de l'extrême droite à l'extrême gauche pour ne rien faire.
Un Gérard Larcher, quoi, quelqu'un qui puisse éventuellement, c'était d'ailleurs une des propositions, une des idées d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire...
Mais sans aucun programme politique. Sans aucun programme politique, parce qu'on n'est pas d'accord sur le programme politique. Donc, on gère, on expédie les affaires courantes, tant d'avoir une majorité, de pouvoir dissoudre, ou que tout d'un coup, une coalition improbable se crée. Donc, c'est du temps perdu, et c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant la situation la plus handicapante pour le pays.
Il y a un certain nombre de points qui sont en effet ambigus, comme vous dites, dans la Constitution, et notamment la question de savoir si. Il est aujourd'hui écrit que un président ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Il ne peut pas se représenter au bout de deux mandats successifs. Si Emmanuel Macron démissionnait, là, en septembre, par exemple, il n'aurait donc pas fini, techniquement, son deuxième mandat. Est-ce qu'il pourrait se représenter ?
Non, c'est pas ambigu. En tout cas, pour les constitutionnalistes, c'est à peu près clair. La Constitution dispose que c'est deux mandats successifs. L'erreur vient d'une loi organique...
Mais qui ne sont pas obligés d'avoir été intégralement purgés.
Exactement. L'erreur vient d'un parallèle avec la loi relative à la Polynésie, parce qu'on a un président de Polynésie qui a pu se présenter trois fois, parce qu'en fait, il est écrit dans la loi relative à la Polynésie deux mandats de cinq ans. Là, c'est pas le cas. C'est deux mandats successifs. Donc, ce faisant, il est clair, certain que Emmanuel Macron démissionnant demain, il ne peut pas se représenter tout de suite en tout cas.
Benjamin Morel, est-ce que Jordan Bardella pourrait refuser le poste de Premier ministre s'il voit que la majorité de ses députés à l'Assemblée est trop faible ?
Vous pouvez toujours refuser, et le président de la République peut nommer qui il veut d'ailleurs. Vous savez, on dit qu'il est contraint de nommer le chef de l'opposition. C'est pas vrai. Il nomme qui veut, s'il veut vous nommer alors qu'il y a une majorité.
Je suis
et voilà.
Pas candidate.
Il peut et vous pouvez également refuser.
Non, en réalité, la question, c'est effectivement le vote et la motion de défiance après
exactement.
Le discours de politique générale du Premier ministre.
Vous nommez.
Et donc responsable devant l'Assemblée.
Et il n'y a même pas de contrainte d'avoir un discours de politique générale. Mais il faut qu'une fois que le Premier ministre est nommé, il ne subisse pas une motion de censure. Ensuite, vous nommez qui vous voulez. Jacques Chirac en 86. François Mitterrand, en 1986, avait imaginé nommer Simone Veil en disant « Je vais décrocher l'UDF, le parti centre-droit à l'époque, de la majorité avec le RPR et je vais avoir une coalition alternative. » Finalement, il décide de nommer Chirac, ça lui profitera en 88, mais c'est absolument pas une obligation.
Merci beaucoup Benjamin Morel. J'ai envie de dire de nous avoir aidé à clarifier, mais c'est pas totalement, c'est-à-dire on a compris qu'en tout cas ce serait pas clair. Merci.
Exactement.
Benjamin Morel, il est clair désormais que ce ne serait pas clair. Vous êtes constitutionnaliste, il est 8h18 et c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Salut Arnaud.
Quelle journée encore hier, on a passé. Quelle journée incroyable. On va commencer avec Éric Ciotti, hein, l'ex-président des Républicains, exclu par son parti parce qu'il veut une alliance avec Jordan Bardella. Tout LR lui avait prévu un pot de départ en chanson. Allez, dehors le traître, et ne revient pas, hein. Et Ciotti, comme il voulait pas être exclu, il s'est enfermé au siège du parti. C'était génial. Le gars, c'est quand même censé être un monsieur sérieux, il est président de parti quand même. Eh ben non, la maturité et la taille d'un enfant de 4 ans, ce clown. Dehors, les Républicains étaient à deux doigts d'appeler le GIGN.
Je vais te donner un bon conseil. Tu libères tous les otages, tu sors ton cul de cette banque et on arrête tout ce cirque.
Jamais de la vie, c'est moi le président. Non, Eric, tu dois partir, c'est dans nos statuts, c'est le contrat. Je ne contracte pas. J'ai vu qu'à un moment, ils ont même pensé à faire venir un serrurier. J'en revenais pas. Un serrurier, quoi. C'était Fort Boyard. Père Fouras, vite, vite, la clé. La clé, il faut faire sortir Passepartout. Il s'est emperdé. Donc finalement, ils l'ont dégagé. Allez hop, nouvelle épreuve pour les JO. Le lancer de nain.
C'est interdit.
Quand tu penses qu'Éric Ciotti s'imagine futur ministre de l'Intérieur, ben voilà, ça c'est le niveau. C'est le nouveau gouvernement Bardella, c'est des gars comme ça. Tu vois qu'en regardant le spectacle, Marine et Bardella vont avoir envie de l'exclure aussi. Ça se retrouvait nulle part.
Alors Marion Maréchal, la vice-présidente de Reconquête, a annoncé ne pas soutenir les candidats de Reconquête.
Voilà, en gros, elle part aussi du parti. Elle plaque Éric. Ben oui. Encore, Marion préfère donc les candidats qui ont le plus de chances de l'emporter. Elle torpille toutes les chances d'Éric Zemmour. Ben voilà, Éric, tu apprendras à tes dépens que dans ton camp, les blonds et les blondes aux yeux bleus ne seront jamais tendres avec les petits berbères d'Algérie. Ça le temps pour les petits Éric d'extrême droite, hein, quand même. Il y a un parallèle. Trahi par Marion Maréchal, Éric, il n'était pas content. Il a dit ça, c'est les bonnes femmes. Hein. C'est les gonzesses. Hein. Vous voyez, j'essaye d'être féministe, la parité, toutes ces conneries. Mais dès qu'un bellâtre musclé avec un prénom d'amateur de tuning débarque, elle vous poignarde dans le dos. Hein. Éric Zemmour a donc pris une vautrade à la présidentielle, une vautrade aux européennes, une vautrade aux législatives. Éric, après le 7 juillet, il n'y a plus d'élections. Hein. Va falloir que tu te présentes à Miss T-shirt mouillé si tu veux faire une quatrième branlée. Alors là, il est très mal barré politiquement, d'ailleurs. Il voulait reconquérir la France. Il faut déjà reconquérir Reconquête. On va commencer petit.
Hier, Emmanuel Macron donnait une conférence de presse. Donc.
Oui, le président s'est exprimé face à la nation.
Française, français. Coucou. Me voilà.
Et il nous a fait un mea culpa, des propositions, c'était un beau discours de candidat. Ce qu'on a fait avant, c'était pas parfait. Alors le 30 juin, pour sanctionner Emmanuel Macron, votez Emmanuel Macron. Il a répondu à la rumeur de démission en cas de victoire du RN et il a été très ferme.
Tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé.
Voilà, il en est à tordre le cou de canards qui n'ont jamais existé. Ça va de mieux en mieux. Et sinon, Emmanuel Macron a promis qu'il n'interviendrait pas dans la campagne des législatives durant cette intervention pendant la campagne des législatives.
Voilà.
Le chef de l'État pense que les Français auront l'intelligence de ne pas mettre le Rassemblement National en tête. C'est une bonne stratégie d'espérer. Ça a tellement bien marché pour les européennes. Enfin voilà, non mais enfin, grosso modo, une intervention qui cassait pas cinq pattes à un canard qui n'existe pas.
Anne Hidalgo a décalé sa baignade dans la Seine.
Comment?
Quelle
bras m'en tombent.
Oh là là.
Après, je la comprends. Hein. L'eau est dégueu et elle est froide. Dans cette eau, il fait quand même un froid de canard qui n'existe pas. Je sens que du côté des fédérations de natation du monde entier, on est de moins en moins motivés. Ils devaient être dégoûtés, les nageurs étrangers. Ils se disent, en France, on pouvait se baigner à Saint-Tropez, à Cannes, à Biarritz, à Tahiti, en Guadeloupe, n'importe où. C'était quand même pas les spots cool qui manquaient. Ben non, fallait aller faire patauger dans les eaux d'épuration. Les athlètes, ils vont nager hyper vite. Hein. Pendant les JO, il y aura des records de battus. Une fois que t'as plongé là-dedans, tu te dépêches. Hein. T'as pas envie de rester longtemps. De toute façon, tu chopes la gastro dès le premier plongeon. Donc, il faut sortir rapidement.
Oh non!
Moi, plus ça va, plus je me demande si Macron a pas créé cette situation parce qu'il sait que les JO vont être un drame. Et du coup, Française, Français, j'ai décidé de refiler le bébé des JO au RN en dernière minute. Comme ça, hop, si c'est le bordel, c'est pas de ma faute. C'est les autres qui sont incompétents. Eh, malinx, le lynx. Je suis trop fort. Allez, je prends ma bouée en forme de canard qui n'existe pas et je pars en vacances. Lui aussi, c'est définitif.
Ne pas retourner, ne pas regretter.
Charles, tiens,
Charlie. Oh oui, un café là un jour.
C'était le quatrième To Be Free, Charles.
Il y aura la Corée un jour.
Il est 8h24, pensez à moi, qui dans un instant va devoir mener une interview politique.
Ah oui.
Sérieuse.
Nous plaçons tous nos espoirs à l'intérieur de toi, ma chère Apolline.
Il est 8h24, donc, et dans un instant, un ministre qui restera-t-il ministre ? Il est ministre de la Justice au moment où on se parle, c'est Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti qui répond donc à mes questions dans un instant. Il y a Emmanuel Macron, dans cette conférence de presse, a promis d'être plus ferme, de remettre en place une certaine autorité. Il a promis de s'adresser notamment aux questions de justice des mineurs. Les réponses donc d'Éric Dupond-Moretti, c'est dans un instant sur RMC BFM TV. Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Ça recommence ce matin à droite. Éric Ciotti, le président tout juste exclu des Républicains, assure qu'il sera bientôt de retour, là, ce matin, dans son bureau au siège DLR à Paris. Au lendemain de son exclusion, après une interminable journée faite de rebondissements, Éric Ciotti menace à nouveau ce matin d'action judiciaire. Il a pourtant contrevenu au statut du parti en faisant alliance avec le RN, ça c'est ce que dit ce matin la nouvelle patronne des LR, Annie Genevard. À gauche, aujourd'hui, le socialiste Olivier Faure assure, et c'était sur RMC, qu'il ne disqualifie pas l'insoumis Jean-Luc Mélenchon pour Matignon en cas de victoire aux législatives. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit non hier soir à la télévision. Mais il ne faut pas le profil le plus clivant, mais celui qui permette de fédérer le pays. Voilà ce que dit Olivier Faure. Premier déplacement de campagne pour le Premier ministre Gabriel Attal à Boulogne-sur-Mer. C'est aujourd'hui, alors que le camp présidentiel est distancé dans la projection de l'Institut Elab ce matin pour BFM TV et la Tribune du Dimanche. C'est le premier sondage qui est réalisé après l'Union de la Gauche. Renaissance donnée à 18% des intentions de vote, loin derrière le RN à 31% et la gauche réunie à 28%. Deux infos à vous donner ce matin. D'abord, sachez que Louis Arnault est de retour en France, trentenaire français qui était détenu en Iran depuis une manifestation il y a 2 ans. Il a été libéré hier. Et puis cette nouvelle fusillade à Marseille, on l'a appris ce matin, un homme tué par balle hier soir, cité Benza, dans le 10e arrondissement marseillais.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour madame.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice, de très nombreuses questions à vous poser sur la justice des mineurs, sur les violences de plus en plus violentes, sur la question des jeunes. Nous proposons plus de fermeté à tous les étages. Voilà ce qu'a promis Emmanuel Macron hier. On va y revenir et vous allez nous expliquer comment ça peut marcher. Mais d'abord, je voudrais savoir si vous avez des nouvelles de Mohamed Amra. Parce que c'était il y a un mois tout pile, que Mohamed Amra s'est échappé en tuant 2 agents pénitentiaires. Ça fait un mois qu'il est en cavale. Avez-vous des nouvelles ? Avez-vous des pistes ? Est-ce qu'il y a des réponses ?
Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'enquêteurs. Le parquet de Paris, totalement mobilisé pour qu'on le retrouve. Et je pense que, d'abord, on le doit à la justice. On le doit aux familles et on le doit également à l'administration pénitentiaire que je vais rencontrer d'ailleurs cet après-midi. Et c'est une annonce que je vous fais. Nous allons signer un protocole qui renforce évidemment la sécurité des agents pénitentiaires.
Un protocole qui renforce leur sécurité. Mohamed Amra, on a aussi découvert comment il vivait au sein de sa prison. Tu vas me filer 2 kilos d'héro tout de suite, il n'y a pas demain. Non, c'est là, tout de suite, 18h53, je te dis, je ne joue pas à cache-cache. Et il appelle un autre et il lui dit, dis-lui que je vais envoyer quelqu'un chez lui, il va lui arracher les cheveux, mettre le feu à son gosse, écrase-lui la tête et jette-le dans la Seine. Ces propos, ils ont été tenus au téléphone par un homme qui est dans une prison, Comment c'est possible?
Comment ils arrivent les téléphones en prison?
9 téléphones.
Ils arrivent par les familles. Parfois, et à titre tout à fait résiduel, exceptionnel, grâce à de la corruption, et ils arrivent aussi par les airs, si j'ose dire. Nous, nous avons fait en sorte de mettre en place des brouilleurs. Mais ils ne sont pas, pour des raisons technologiques d'ailleurs, efficaces à 100%. Nous avons mis en place des systèmes anti-drones. On doit aller encore plus loin. Sachez par exemple que les fouilles ne sont plus permises depuis 2009. Il faut une modification législative.
Est-ce que vous pourriez rétablir les fouilles à l'entrée du parloir?
Parce que
si je vous pose toutes ces questions, Éric Dupond-Moretti, vous le comprenez bien, c'est que quand on a Emmanuel Macron hier qui dit « Je promets une autorité républicaine à tous les étages » et qu'effectivement depuis un mois, jour après jour, parce que ces dernières révélations sur les propos tenus au téléphone, elles datent d'hier, mais depuis un mois, on découvre ce qu'était la vie en prison d'un homme extrêmement dangereux qui avait sa chicha, qui bougeait de cellule en cellule d'ailleurs. Quand il bougeait de cellule, la chicha bougeait aussi. Et il la retrouvait dans une autre cellule, qui organisait le trafic et qui passait ses ordres depuis sa cellule, jusqu'à 9 téléphones qui se faisaient livrer des cartes, des téléphones, de quoi manger, sa consommation de cannabis, et qui recevait sa copine sous prétexte que c'était sa sœur, avec des gardiens qui constataient et qui l'indiquent dans leur compte rendu que jour après jour il y avait des rapports sexuels, mais qui continuent à dire que c'est sa sœur. Il y a quand même peut-être un truc qui va pas.
Oui, je pense que il y a une philosophie peut-être de la paix sociale, et moi je veux totalement changer de braquet et de paradigme.
Totalement changer de braquet.
Totalement, madame. Je pense qu'il n'est pas normal, et tous les Français sont d'accord avec moi, qu'on puisse en prison disposer d'un téléphone portable. Je demanderai à ce qu'il y ait des poursuites systématiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais prendre des circulaires fermes, comme toutes les circulaires que j'ai prises. Je veux que l'on revienne sur la question des fouilles. Je veux qu'il y ait un traitement particulier de ceux qui sont des narcotrafiquants. Et la question d'ailleurs pour Amra est de savoir si la pénitentiaire disposait de renseignements permettant de le considérer comme un voyou du haut du spectre. Est-ce que tout a été transmis? C'est d'ailleurs l'objet.
Vous avez demandé une enquête administrative.
Absolument. Et je dirais ce qu'elle contient. Parce que pour que l'on avance, il faut que l'on avance dans la lucidité, dans la clarté et dans la transparence. Et je veux dire très clairement que nous allons accélérer les brouilleurs, même s'il y a un certain nombre de difficultés techniques. Je veux également vous dire, parce que les choses ne sont pas simples, elles ne sont pas binaires, que certains téléphones sont tellement plastifiés qu'ils sont aujourd'hui indécelables. Donc il y a tout un travail à conduire de fermeté, et moi je m'y engage, aussi de technologie, pour qu'il n'y ait plus de téléphone portable en prison et que les narcotrafiquants ne puissent plus faire leur trafic. D'ailleurs, vous savez qu'après les opérations PlaceNet, plus exactement pendant les opérations PlaceNet, j'ai demandé des opérations CellulNet, on a saisi beaucoup de portables, on va expertiser les puces et ce que contiennent ces portables pour permettre à la justice de faire mieux son travail.
Vous comprenez que, évidemment, quand on vous entend ce matin, on se dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt?
Ben, je vais vous le dire, madame. Parce que on est parti de rien. Il y avait zéro brouilleur en 2017. Il faut les installer, il faut budgéter ces mesures. Il y avait zéro système anti-drone. D'ailleurs, on ne connaissait pas les drones à l'époque. Mais quand vous parlez de système anti-drone, il y a aussi la question des filets qui doivent protéger les établissements pénitentiaires. Tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a que ceux qui sont dans l'opposition qui peuvent le dire. Et d'ailleurs, hier, dans le discours du président de la République, il exprime très clairement la frustration que l'on peut avoir entre l'annonce d'une mesure et sa mise à exécution. Vous voyez, il faut un peu de temps pour faire tout cela. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui seront prises, qui seront signées cet après-midi avec la pénitentiaire.
Cet après-midi avec la
pénitentiaire.
Bien sûr.
Et puis, pardon.
La justice des mineurs, Éric Dupond-Moretti. Je voudrais y venir, parce que c'est aussi un des points qui a été énormément débattu ces derniers temps, notamment après les drames de Samara, de Shamsidine, qui a été tabassé à mort devant son collège. La question de la justice des mineurs. Allez-vous, oui ou non, modifier cette justice des mineurs?
Oui, madame, on y travaille, et pas ici, à cause, si j'ose dire, de la campagne législative qui s'ouvre. Il y a des mois que l'on travaille sur un certain nombre de mesures. Je vais vous en donner une. Un mineur, aujourd'hui, quand il commet un crime, peut être évidemment placé en détention, et c'est souvent la règle. En revanche, un mineur qui n'a jamais été condamné ne peut pas être emprisonné, sauf si on a recours à une information judiciaire, ce qui a, vous avez compris, pour effet d'allonger, évidemment, et d'alourdir la procédure. Je veux, c'est une mesure de fermeté, de radicalité, qu'un mineur, s'il commet un fait grave comme premier fait, parce que s'il n'a pas commis antérieurement
de fait, il n'aura pas besoin d'être dans une récidive.
Absolument, madame, on puisse envisager son placement en détention.
Immédiate ?
Immédiate. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup consulté, parce que là encore, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a que les oppositions qui ont la baguette magique. Je vais vous faire remarquer d'ailleurs qu'on a d'abord réformé le code de justice pénale des mineurs. Il a fallu 10 ans pour le faire. Et il porte ses fruits, ce nouveau code de justice pénale des mineurs, notamment en matière de réduction des délais. Mais s'agissant de cette mesure forte que je veux prendre, bien sûr que j'ai consulté tout le monde, comme je le fais habituellement. Et les procureurs m'ont dit, mais là, on a une difficulté, c'est qu'il faut, pour incarcérer, que l'on ait recours. Je vous donne un exemple. Un mineur vole le sac d'une vieille dame. Circonstance atténuante, la vulnérabilité, bien sûr, et peut-être même la réunion, souvent...
Aggravante, vous voulez dire?
Oui, oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit atténuante.
Oh, pardonnez-moi. Aggravante, bien sûr. Circonstance aggravante, il en faut deux pour que l'on soit sur une certaine gravité quant aux peines encourues. Alors, aujourd'hui, si le procureur veut que les jeunes interpellés soient placés en détention, je viens de le dire, il faut avoir recours à l'ouverture d'une information.
Donc, des
délais, de la lourdeur, etc.
Ça, vous faites lever ça.
Et
vous faites sauter
oui,
ça.
Madame. Oui, madame. On est,
vous faites sauter quand
Écoutez, on a un texte qui est prêt.
Oui, enfin, vous comprenez bien que si je vous pose cette question, c'est que le texte, il est prêt. Mais bon, là, dans les circonstances, oui, madame, pas sûr que vous puissiez y travailler.
Il ne va pas vous échapper, il ne vous échappe pas qu'il faut un Parlement, donc une Assemblée nationale et un Sénat, mais le texte est prêt.
Disons que dans ces cas-là, c'est ça fait partie du programme mais de votre...
De la même façon, j'ai annoncé un certain nombre de mesures concernant le haut du spectre de la délinquance et en particulier la lutte contre le narcotrafic. J'ai un texte qui est prêt.
Maintenant, je vais vous reposer la question, Éric Dupond-Moretti. Je vais reprendre votre exemple du jeune qui s'en prend à cette vieille dame et à son sac à main. S'il a 16 ans, si je comprends bien, votre texte pourra avancer vers cela. S'il a 13 ans.
S'il a 13 ans, il y a déjà un certain nombre de mesures. La question que vous posez, c'est celle...
En fait, à quel âge vous mettez le niveau? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fallait qu'il ait 18 ans pour pouvoir être retenu immédiatement. Vous dites, ça, je vais la baisser. Mais vous la baissez jusqu'où? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 16 ans? Mais c'est 15 ans? C'est 13 ans?
Il y a deux régimes, madame. Et voyez-vous, la difficulté, je veux quand même l'évoquer, c'est que le régime des 13-16 et des 16-18 ne sont pas les mêmes. Et il y a un certain nombre de prescriptions constitutionnelles. Il y a un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, je ne veux pas être trop technique. Il y a plusieurs décisions qui rappellent que la justice des mineurs est une justice qui reste une justice spécifique.
Je vous pose ma question, imaginons, il a 15 ans.
Mais madame, je viens de vous dire, 13, 16, et même en dessous de 13, s'il y a
17... Donc en fait, ce que vous me disiez là sur le jeune avec le sac à main, c'est s'il a 16 ou entre 16 et 18.
On peut envisager des mesures...
Mais pas moins de 16.
Non, on peut envisager des mesures qui sont des mesures coercitives, mais madame, aujourd'hui, vous avez cette difficulté, les procureurs l'ont exprimé...
Mais c'est ce que je vous dis.
Et il faut que je le prenne en compte.
C'est une difficulté. On en fait quoi de cette difficulté? Dans la mesure où, et là, tous les chiffres le montrent, on parle d'une violence de mineurs de plus en plus violent et de plus en plus jeune.
Mais il y a un certain nombre,
pas la barre.
Madame, il y a un certain nombre de jeunes de moins de 16 ans qui sont aujourd'hui en détention, qui sont aujourd'hui dans les centres éducatifs fermés, qui sont aujourd'hui dans les centres éducatifs renforcés. Et je voudrais vous dire quelque chose. D'ailleurs, j'y fais venir là, en plein accord avec Gérald Darmanin, des policiers et des gendarmes qui vont à côté des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse amener un peu de république, un peu d'ordre, un peu de fermeté républicaine.
Comment on fait pour amener un peu d'ordre, un peu de république, un peu d'autorité?
Quand vous avez des enseignants qui sont policiers et gendarmes, voyez-vous, ça permet d'établir avec le mineur un rapport qui est un rapport que, personnellement, j'appelle de mes voeux.
Éric Dupond-Moretti, vous avez dit que la justice, elle était plus rapide. Alors, la justice des mineurs, on va être très précis, elle est plus rapide parce qu'elle a été coupée en deux. C'est-à-dire que désormais, il y a deux audiences. Une première audience pour dire si oui ou non le jeune est coupable. Une deuxième audience pour énoncer la sanction. Ça veut dire que ça permet en effet de juger plus vite, mais ça permet pas de punir plus vite.
Ça permet, madame, de juger plus vite et pendant la période qui sépare l'audience de culpabilité et l'audience qui est destinée à fixer la peine, il y a, pardonnez-moi, un suivi. Et un suivi qui est un suivi de proximité. Pourquoi ? Parce que le gamin qui est condamné, il sait qu'il doit recevoir la peine qu'il mérite et entre les deux, il est suivi.
Oui, mais on a vu dans le cas de Shamsidine que l'un des jeunes était précisément dans ce moment, dans ce petit laps de temps.
Vous pourrez toujours me prendre un cas particulier où ça n'a pas fonctionné. Je l'entends, c'est ce que j'ai appelé, et je l'ai déjà dit devant vous, la fédiversification de la justice. Il faut quand même savoir qu'on est parti d'une ordonnance de 45, mythique ordonnance du général de Gaulle. On s'est rendu compte que la délinquance des mineurs avait évolué. On l'a modifié. Ce texte a fait l'objet d'ailleurs d'un... J'ai d'ailleurs vous rappelé que Marine Le Pen elle-même a dit que ce texte allait dans le bon sens. Voilà. Et il va dans le bon sens. Maintenant,
c'est quoi comme argument, ça, Éric Dupond-Moretti ?
De quoi ?
Marine Le Pen a approuvé, vous voyez, ça veut dire que ça va dans le bon sens.
Non, ce que je veux dire, madame, c'est que...
Vous avez connu assez différent dans vos arguments.
Mais pas du tout, vous ne me laissez pas le développer, je vais le faire. Madame Le Pen a dit que ce texte allait dans le bon sens et M. Bardella a critiqué ce texte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais...
M. Bardella qui, lui, propose des peines courtes et immédiates pour les mineurs, ce qui est à peu près ce que vous nous énoncez ce matin.
Oui, mais madame... Ils n'ont pas comme référence la Constitution, ni d'ailleurs l'État de droit.
Oui, enfin, c'est la même proposition.
Moi, ce que je fais, c'est à la suite d'un travail de concertation, et c'est pas dans de la démagogie. Donc j'ai dit oui, qu'il y aurait cette possibilité de passer...
Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. C'est-à-dire, il y a la bonne proposition et la mauvaise proposition, mais c'est la même proposition.
Mais non, madame. Ça n'a pas été proposé. En tous les cas, pas de cette façon. Ce que dit le Rassemblement National... c'est que c'est ces vérités à tous les étages, sans discernement et sans même prendre en compte les impératifs constitutionnels. Nous, on est sérieux. Vous voyez, moi, je ne fais pas de fausses promesses. C'est un long travail. J'ai consulté beaucoup de monde et le monde que j'ai consulté, je le pense, n'a pas été consulté par M. Bardella. De qui s'agit-il ? Il s'agit des procureurs de notre pays, des procureurs généraux, des policiers, des gendarmes, des avocats, de tous ceux qui sont des professionnels de la justice. Et, pardon de vous le dire, ça prend du temps. Mais notre intention est effectivement de régler ces difficultés. Mais voyez-vous, la délinquance des mineurs, elle a bougé. Peut-être pas en nombre, mais en intensité, c'est une réalité. Et les causes de cette délinquance sont des causes qui, il y a de cela encore quelques années, nous étaient inconnues. Le président de la République a évoqué hier, par exemple, les écrans, les réseaux sociaux qui ont effectivement un rôle dans la délinquance.
Emmanuel Macron,
il faut travailler à tout cela de façon sérieuse.
Emmanuel Macron qui dit qu'il veut interdire les téléphones portables aux moins de 11 ans. Je vous reprends le début de notre interview. Un homme qui est en prison, à la prison de la santé, dont on contrôle les faits et gestes, il a 9 téléphones portables.
Je vous ai répondu.
Donc on n'arrive pas à interdire un téléphone portable dans une prison, 9 téléphones portables, mais on va interdire les téléphones portables des jeunes de 11 ans.
Je crois que vous devriez venir 15 jours à mes côtés et vous verriez.
Mais je ne demande que ça. Observer, comprendre.
Deux secondes. C'est beaucoup plus facile de commenter. Vous êtes dans l'IAC à Faucon, faudrait peut-être. Moi, je vous dis, madame, que les choses sont complexes. Pourquoi elles sont complexes ?
C'est la faute des journalistes.
Madame, c'est pas du tout ce que je dis, madame de Maléon. Je viens de vous expliquer que nous avions. À faire des phénomènes de drones, par exemple, ça n'existait pas. Il faut le temps de réagir, de mettre en place. Je viens vous expliquer qu'un certain nombre de portables sont tellement plastifiés qu'ils ne sont pas décelables. Et un certain nombre des outils permettant de déceler des métaux ne fonctionnent pas en prison parce que les murs sont métallisés. Je viens vous expliquer, madame, que nous avons mis en place des brouilleurs, que nous avons mis en place des systèmes anti-drones, que nous avons mis en place des filets, qu'il y a pas loin de 200 établissements pénitentiaires, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà ce que je vous dis. Mais ma volonté, elle est très claire. Je trouve totalement anormal qu'il y ait un téléphone portable en prison. Je dis que les parquets, désormais, poursuivront tous ceux qui ont des portables. Je dis qu'il y aura des répercussions sur les réductions de peine. Je rappelle d'ailleurs que, à ce propos, j'ai viré les réductions de peine automatiques pour les remplacer par des réductions de peine à l'effort et que, parallèlement à cela, j'ai mis en place un contrat du détenu travailleur, parce que je veux que l'on travaille en prison.
Éric Dupond-Moretti, les juges ne sont pas politiques. Le syndicat de la magistrature appelle cependant dans un communiqué hier à manifester samedi à Paris. Est-ce leur rôle ?
le Conseil supérieur de la magistrature a dit qu'ils avaient une liberté totale d'expression. Moi, je suis respectueux des institutions. Si vous me posez la question à moi, je pense que c'est pas leur rôle. Mais je n'ai rien à dire là-dessus. C'est leur liberté et elle s'exprime, madame, en des termes que vous venez de rappeler.
Ça vous choque ?
C'est pas le rôle d'un syndicat de magistrats. Ça donne à voir que certains magistrats sont politisés. Je dis bien certains. Et moi, je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, voyez-vous. Parce que, quand même, la grande majorité des magistrats de notre pays, des greffiers, des avocats, des contractuels, sont des gens qui travaillent bien. Et depuis quelques mois, puisque vous me parlez du bilan, je veux vous dire que nous avons en matière civile un déstockage très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice est rendue plus vite. Ça veut dire également que les magistrats se sont emparés de ce que nous avons mis en place, la politique de l'amiable qui permet de passer de 3 à 4 ans pour un litige à 4 mois. Mais tout ça n'est pas suffisant. Et quand on a l'honneur d'être un ministre régalien comme je le suis, on ne peut jamais se dire que tout est réglé. Voilà, madame, ce que je peux vous dire. Il faudrait des heures pour évoquer le bilan et les choses qui restent à faire.
Est-ce que vous serez candidat, Éric Dupond-Moretti ?
Je serai là où le président de la République me demandera d'aller. Ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit la place qui sera la mienne, je me battrai. Je ne veux pas que notre pays tombe dans les mains des extrêmes. Extrême gauche, enfin, Monsieur Poutou, Madame de Malherbe.
Le NPA.
NPA anti-flic. Lorsque on tire des mortiers à La Courneuve sur le commissariat, ce monsieur dit... Quel joli feu d'artifice. Mais vous imaginez...
C'était lors des émeutes.
Et sur le Hamas, il estime que c'est un acte de résistance. Mais c'est une honte absolue. Honte à ceux qui se marient avec ces gens du NPA.
Et monsieur... Le NPA dont je précise, je recevais Olivier Faure sur RMC matin, qui dit vendu... qu'en effet, il pourrait y avoir quelques circonscriptions de cette coalition de gauche qui sont octroyées au NPA.
Mais c'est lunaire de dire des choses comme ça. Monsieur Faure, il a vendu le Parti Socialiste, qui était un grand parti de gouvernement, pour un plat de lentilles, pour quelques places. Et d'ailleurs, qui serait s'il gagnait, si par malheur il gagnait leur Premier ministre ? Monsieur Mélenchon ?
Il s'est dit prêt, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, monsieur Boyard, madame Panot, c'est ça qu'on veut pour la France. Et de l'autre côté, excusez-moi, mais l'escroquerie démocratique, il y a des gens qui ont voté pour M. Zemmour et qui se sont ralliés à sa bannière. Et aujourd'hui, ceux qui faisaient partie de son équipe retournent, si j'ose dire, dans la famille originelle, Marion Maréchal Le Pen. Mais les électeurs qui ont voté Zemmour et qui voient les zémouristes, les zémouriens, je ne sais pas comment il faut les appeler, repartir au RN, mais qu'est-ce qu'ils se disent ? On est cocus. Comme d'ailleurs... Les électeurs de Raphaël Glucksmann sont aujourd'hui cocus. Et quand le président de la République dit « Moi, je souhaite une clarification », elle est en cours, là. On voit ce qui se passe. Certains LR, l'extrême droite, l'extrême droite qui se rallie à l'extrême droite. Et côté gauche, monsieur Poutou. Mais dites-moi, vous avez vu des images de l'Assemblée nationale ? Est-ce que les Français ont envie d'un Parlement comme celui-là ? La réponse, à mon avis... Elle est non. Et le président propose une clarification. Il a dissous l'Assemblée nationale pour obtenir cette clarification. Et je pense que petit à petit, les masques vont tomber.
Éric Dupond-Moretti, merci d'être venu ce matin répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.